et à toutes. Alors, nos hommes politiques ont bien pris l'habitude de dire bonjour à toutes et à tous, mais je ne suis pas un homme politique. Effectivement, ce matin, nous allons continuer notre série pour rester ferme. Et pour rester ferme, l'apôtre Paul nous envoie un mot fort, priez pour nous. Alors, on va attendre le... Voilà. C'est le début de ce texte que nous allons voir ce matin, donc dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 3, les versets 1 à 5. Priez pour nous. Voici comment ce texte démarre. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une autre série et c'était Alain qui nous avait exhorté avec 1 Thessaloniciens 5, 17, dans lequel il est écrit « Priez sans cesse ». Et ce matin, Paul nous dit « Priez pour nous ». Mais au verset 25, dans 1 Thessaloniciens, et le chapitre 5, il disait aussi « Priez pour nous ». Voilà une requête vraiment importante. Il la renouvelle au début de notre texte. Alors, si vous vous souvenez un peu de ce que Nicolas nous a enseigné il y a un mois, cette requête fait suite à ce que Paul a prodigué comme encouragement dans la deuxième partie du chapitre 2. Si vous ne vous souvenez pas, je ne suis pas méchante, je vous le rappelle. Donc, Paul a exhorté les jeunes chrétiens de Thessalonique, jeunes dans la foi, à s'accrocher aux enseignements des apôtres, à la vérité biblique, sans se laisser détourner par de faux enseignements. Il les a encouragés à élever leur regard vers la vie éternelle. Et enfin, il les a défiés de prendre Christ en exemple malgré les difficultés. Et j'ai trouvé un autre texte qui nous rappelle cela, prendre Christ comme exemple. En Romains 15, 3, il est écrit « En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. » Alors c'est vrai, la vie n'est pas toujours facile et notre temps de louange ce matin nous l'a si bien rappelé, mais le Messie nous montre le chemin. L'enchaînement entre les deux textes, le deuxième et le troisième chapitre, commence par « au reste ». Selon les traductions, vous trouverez « au reste »,« maintenant »,« finalement ». Alors, ça nous laisse à penser que Paul va présenter la conclusion de son épître. Est-ce que c'est vraiment le cas ? En fait, ce « finalement » signifie « du reste » à côté de cela. Alors, il ne dit pas qu'il a terminé. Dans ses épîtres, il utilise plusieurs fois ce mot. C'est la transition entre la partie doctrinale que Nicolas et Michael nous ont déjà expliquée et l'application pratique qui va encore venir. Notre texte de ce matin est donc une transition entre ces deux parties. Il passe des événements de temps de la fin, de l'eschatologie et d'un enseignement sur cela à notre vie chrétienne de tous les jours avec des préceptes qu'il va donner. Cet enchaînement est court, c'est vrai, mais c'est riche pour notre réflexion. Alors nous allons voir ce qui pousse Paul à demander la prière des Thessaloniciens. Là, vous le voyez clairement, c'est le verset 1 à 3. J'ai mis en gras, ce qui nous intéresse principalement. Ensuite, au verset 4, il prépare ce qu'il va déclarer dans les versets suivants, 6 à 15. Et puis enfin, il y a une exhortation à se rapprocher davantage de l'intimité de notre Dieu et Seigneur. Alors voyons, priez pour nous. Pourquoi est-ce que Paul demande avec tant d'insistance que l'on prie pour lui et ses collègues, hein, le « nous » Alors, il ne le fait pas seulement dans ce verset. Je vous ai déjà rappelé 1 Thessaloniciens 5:25. Frères, priez pour nous. Mais on trouve la même demande en Hébreux 13:18. Priez pour nous. Et en Colossiens 4:3. Priez en même temps pour nous. Donc, ce n'est pas juste une lubie dans Thessaloniciens, c'est quelque chose de permanent chez Paul. Dans ces deux derniers cas, Hébreux et Colossiens, Paul rappelle combien il rend continuellement grâce à Dieu pour tous ses lecteurs, ceux qui lisent ses épîtres. Alors finalement, il leur demande aussi à leur tour de prier pour lui. Cet homme, c'est le plus grand des leaders chrétiens qui sont nés dans le premier siècle. C'est le plus grand leader spirituel de tous les temps. Et il demande humblement à de tout jeunes croyants de prier pour lui. Cela nous montre que même ceux qui servent Dieu dans la prière depuis longtemps ont besoin de nos prières. Dans le domaine spirituel, personne ne peut fonctionner efficacement s'il reste seul. J'ai trouvé dans le commentaire biblique contemporain, alors c'est un commentaire de 70 théologiens africains, cette citation. Paul et ses collaborateurs, bien qu'ils soient mûrs, ont besoin du soutien spirituel des chrétiens pour surmonter les difficultés, car personne n'est une île, comme le vieil adage le dit si bien. La prière aide à affronter les difficultés les plus dures. Alors on voit ça en Marc 9:29. Comme l'eau est la force du crocodile, la prière est celle du chrétien. Et j'imagine bien le crocodile avec ses dents là, qui veut mordre, et nous, chrétiens, prions, mordons. Les prières des chrétiens des différentes communautés fondées par Paul et ses collaborateurs lui ont été nécessaires de bien des façons. Le livre des Actes nous raconte toutes les péripéties qu'il a dû affronter, les périls, les dangers qu'il a pu surmonter. Pourquoi ? Parce qu'il était le meilleur, le plus fort. Non, parce qu'il avait à ses côtés, dans l'intercession, des personnes fidèles et dévouées, qui savaient combien leur prière pour lui était importante. Alors, comme vous le savez, j'aime bien les petites histoires, donc je ne vais pas résister au plaisir de vous en raconter une. Et cette histoire nous montre combien nos prières peuvent changer le cours des choses, même quand nous n'en sommes pas conscients. Donc je lis. C'est en hiver. Comme souvent à pareille époque, entre les États-Unis et le Canada, une soudaine tempête de neige se déclare. Malheur aux pilotes de petits avions qui se trouvent pris dans la tourmente. Ce jour-là, c'est le cas d'un chrétien missionnaire à bord de son petit Cessna. Plus de visibilité, plus de radio, la glace alourdit de plus en plus l'avion. Il faut tenter d'atterrir. Mais seul, une roue du train sort. L'autre reste bloquée. De plus, un vent de travers souffle violemment. Le pilote n'a aucun moyen de joindre sa famille pour lui demander de prier pour lui. Mais Dieu veille sur son serviteur. Le vent de travers, redouté par le pilote, assure dans ce cas précis la portance de l'aile correspondant à la roue bloquée et permet l'atterrissage sans dommage sur l'unique roue sortie. Quelques jours après, le pilote apprend qu'à l'heure même où il se trouvait en détresse, une personne qui n'avait pas pu se rendre à une réunion de prière à cause du mauvais temps avait longuement prié pour lui chez elle. Quelle puissance que la prière, tout en reconnaissant notre incapacité à intervenir dans des situations qui nous dépassent. Prions avec foi et Dieu accomplira des miracles. Voilà, n'oublions pas de prier pour ceux qui apportent l'Évangile. Et Paul savait qu'il était un instrument de choix choisi par Dieu pour répandre l'Évangile chez les païens et pour établir la vérité. Mais il n'avait pas confiance en ses propres capacités. Il avait constamment besoin des prières des croyants. Et ce n'était pas pour lui qu'il priait, mais pour la propagation de l'Évangile. Toujours en étudiant les textes bibliques, nous pouvons trouver qu'à de nombreuses reprises, lorsque Paul demande de prier pour lui, ce n'est pas pour des besoins personnels, mais vraiment pour qu'il soit fortifié dans son service pour Dieu. Je vous citerai Romains, chapitre 15, des versets 30 à 31. « Je vous exhorte à combattre avec moi en adressant des prières en ma faveur afin que je sois délivré des incrédules de la Judée. » Et Éphésiens 6, 19, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Les Thessaloniciens avaient beaucoup reçu et Dieu les avait merveilleusement bénis. Pourquoi d'autres hommes ne pourraient-ils pas jouir des mêmes bienfaits ? Oui, il fallait que d'autres puissent honorer, glorifier la parole de Dieu, tout comme les Thessaloniciens le faisaient. Alors, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le verbe qui est utilisé dans le premier verset, que je vais vous rappeler, « Priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande. » Eh bien, ce verbe « se répandre », ça, c'est la version seconde traditionnelle. Le grec dit littéralement que la parole de Dieu court. Et vraiment, de lire ça, ça m'a parlé, ça m'a interpellé. Vous imaginez la parole de Dieu, là, avec ses petits pieds qui courent partout, mais c'est vraiment Paul qui a cette notion d'urgence qu'il faut que ça parte dans tous les sens. Et d'ailleurs, les nouveaux traducteurs l'ont bien compris. Dans la seconde 21, maintenant, on lit « se propage », « se répandre rapidement » dans la nouvelle français courant de la Sommeur. Et pourquoi cette urgence, cette nécessité ? Le verset 2 nous dit « afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » Eh oui, le diable rôde et il faut le contrer. Paul a eu à affronter des hommes qui l'ont contraint à s'enfuir de Thessalonique, c'est ce que Nicolas nous avait rappelé la dernière fois. Mais dans bien d'autres villes, il a été combattu, il a dû fuir, ou bien il a été emprisonné. Alors, pour vous donner une idée, j'ai pris cette carte et j'ai encadré le nom de certaines villes qui sont citées dans les Actes. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir de loin, mais ça vous montre que ce n'était pas juste à un endroit. Il y a Iconium dans Acte 14, Élystre, il y a Philippe dans Acte 16, il y a Bérée dans Acte 17. Donc, je vous encourage à chercher vous-même dans le livre des Actes toutes les fois où Paul a dû se sauver avec ses compagnons. Ça sera aussi un très bon exercice. Mais nous pouvons comprendre avec ce verset que Paul souhaitait que plus de personnes croient afin que ce ne soit plus qu'une minorité qui conteste avec lui et non pas des foules menaçantes. Ces hommes méchants et pervers peuvent aussi être ceux qui troublaient l'église de Thessalonique au sujet du prochain retour de Christ. Mais les plus dangereux sont certainement les faux frères qui sont membres de l'église et occupent les chaises. Le livre des Actes rapporte qu'au responsable de l'église d'Éphèse, Paul a dit « Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi nous et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. » On trouve ce texte dans Acte 20, les versets 29 et 30. Et un autre commentaire que j'ai trouvé sur ce texte déclare « La parole de Dieu tombe fréquemment dans de la mauvaise terre, c'est-à-dire dans les oreilles des sourds, des gens qui ne veulent pas écouter et qui ferment leur cœur à Jésus-Christ. Ce sont eux dont Paul dit qu'ils n'ont pas la foi. Non seulement ils refusent de croire, mais souvent ils deviennent hostiles à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Annoncer que la vie éternelle s'obtient en faisant simplement confiance à Jésus suscite souvent des réactions agressives. » Par contre, si on dit aux gens qu'ils seront sauvés à condition qu'ils parcourent 1 kilomètre à plat ventre une fois par semaine, il n'y a pas de problème, c'est très curieux. Fin de citation. Malgré tout, Paul a cette confiance en Dieu qu'il va préserver ses brebis et les garder des attaques de toutes sortes de l'ennemi, car Dieu est fidèle. Voyons le deuxième point de notre texte. Si Paul a confiance en Dieu, il affirme également sa confiance envers les Thessaloniciens. Le chapitre 4 nous dit « Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. » Alors, c'est bizarre, il vient de nous parler, de nous dire « Priez pour nous, pour que » ce qu'on vient d'expliquer. Et puis maintenant, il parle de la confiance que Paul a envers les Thessaloniciens. Ça semble être deux sujets complètement différents. Alors, pourquoi est-ce que tout à coup, Paul loue les qualités de ses lecteurs à nouveau? Normalement, quand il écrit « Priez pour nous », après, il y a tout un tas de salutations dans certaines lettres, « Saluez Saint-Tiche »,« Saluez un tel qui m'a accueilli » et tout. Et là, tout à coup, il dit « Nous avons confiance en vous ». Il y a quelque chose qui ne va plus dans notre habitude de la lecture des épîtres de Paul. Mais en fait, ce verset, c'est bien la bascule vers la nouvelle exhortation que Paul va apporter. Je vous ai dit, il va y avoir quelque chose de pratique après ce passage. Donc, il prépare les chrétiens à ce qui va suivre. Il réaffirme leur engagement envers la saine doctrine, celle que les apôtres leur ont enseignée. Et voilà pourquoi il leur dit, « Vous faites les choses que nous recommandons. » Paul est particulièrement exigeant dans ses épîtres. Il possède l'autorité divine d'ordonner aux croyants de tous les temps d'adopter un comportement digne de leur appel par Dieu. Les Thessaloniciens lui ont obéi, ce qui prouve que leur foi est réelle, authentique, et qu'ils continueront à se soumettre à la parole de Dieu. Donc Paul continue ainsi avec un futur « et vous ferez ». Et c'est ça qui nous amène au verset 6 à 15, mais chut. Ça sera pour un prochain message. Alors, en tout état de cause, Paul a confiance envers les Thessaloniciens, envers la bonne disposition de leur cœur pour suivre son enseignement. Mais c'est aussi l'attitude de nos pasteurs, de nos responsables, lorsqu'ils nous enseignent, qu'ils prient pour nous, qu'ils cherchent à nous faire grandir en Dieu. Et pour autant, est-ce que nous-mêmes, nous choisissons de nous comporter de façon à ce qu'ils se réjouissent de nous voir croître avec le Seigneur? Est-ce qu'au contraire, nous essayons de camoufler nos mauvaises attitudes? Est-ce que nous acceptons toujours leur enseignement? Comment est-ce que nous nous positionnons dans ce domaine? Est-ce que nous sommes du style à écouter puis à bavarder en famille pendant le déjeuner qui suit? Bavarder, je l'ai mis entre guillemets dans ma feuille et je pense que vous comprendrez ces guillemets. Est-ce que nous avons à l'extérieur de l'Église un si mauvais comportement que cela entache la réputation du pasteur ou de la communauté? Ou bien est-ce que nous pensons tout savoir, tout connaître, être des experts qui n'ont plus besoin qu'on leur dise quoi faire? Alors j'ai trouvé une nouvelle petite histoire qui m'a bien fait réfléchir. « Qui a empaillé ce hibou ?» demande un client en attendant son tour chez le coiffeur. Ne recevant pas de réponse, « Comment peut-on faire un travail si mauvais ?»« Vraiment, monsieur Boniface, je ne donnerais pas un centime pour un oiseau pareil. J'ai visité bien des musées, mais celui qui a empaillé cet animal-là est un maladroit. » Le coiffeur continue tranquillement son travail. Nouvelle attaque. J'ai étudié les oiseaux de nuit et je peux vous affirmer qu'un hibou peut s'asseoir sans s'appuyer de la sorte. Et puis les ongles n'ont jamais été aussi arqués. Perché habituellement sur des branches dénudées, il n'a jamais les pattes aussi droites, ni le cou aussi tordu. C'est impossible, vous ne me la ferez pas. Monsieur Boniface continue de coiffer sans broncher. Mais enfin, regardez ses yeux, des boutons de verre. Ils ne sont même pas de la couleur voulue. Descendez donc cette horreur et faites-la rempailler, monsieur Boniface. » À ce moment précis, le hibou remue, se dresse, perce de son regard le jeune intrus. Alors ça vous fait peut-être rire. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes parfois bien inconscients de ce que notre attitude, nos réflexions, nos commentaires, nos accusations peuvent entraîner en nous disant que cela ne regarde que moi. Et pour vous appuyer cela, j'aimerais partager avec vous un verset que j'ai déjà partagé avec Michaël. J'ai été fortement interpellée le jour où j'ai découvert dans ma Bible le texte suivant. Hébreux 13, 17. « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leur tâche avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Il est évident pour chacun d'entre nous que le pasteur ou l'ancien d'une église veille sur ses ouailles en priant pour elles et pour leur croissance spirituelle. C'est aussi ce que fait Paul pour toutes les personnes auprès desquelles il a pu témoigner et qui ont donné leur vie à Dieu. À qui il a prodigué ses enseignements ? Mais est-ce que c'est aussi évident pour notre compréhension que nous avons un devoir de bien nous comporter, car ils auront à rendre compte de nous devant Dieu ? Ce n'est peut-être pas aussi certain, et je vous laisse méditer sur ce point. Le dernier verset de notre texte, le verset 5, nous présente un troisième point important que Paul veut relever. Que le Seigneur, dit l'apôtre, dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Telles sont les deux choses que les Thessaloniciens sont appelés à montrer dans leur vie. Alors, pourquoi l'amour de Dieu ? Nous connaissons vraiment l'amour lorsque nous jouissons de celui qui est dans le cœur de Dieu. L'amour est un fruit produit par le Saint-Esprit. Lui seul peut le communiquer aux croyants et le vivre à travers lui. Quand nous l'expérimentons, l'amour devient un refuge pour nos âmes et nous y trouvons une entière satisfaction. Alors, dans la mesure où nous comprendrons l'amour que Dieu a pour nous, nous l'aimerons en retour et nous aimerons nos sœurs et nos frères. Mais comment le fait de nous diriger vers l'amour de Dieu peut-il avoir un lien avec le nouvel enseignement que Paul veut apporter dans les prochains versets ? Jules Marcel Nicole nous rappelle que l'amour coïncide avec la sanctification. Dieu est amour. Si nous sommes à lui et si sa vie nous pénètre tout naturellement, nous aimons. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 4, 7. De plus, être sanctifié, c'est obéir de mieux en mieux aux ordres du Seigneur. Ainsi, l'amour englobe tous les devoirs variés qu'un chrétien peut avoir. Alors, nous comprenons mieux que Paul veut amener ses lecteurs à considérer. Laisser l'amour de Dieu envahir leur cœur les conduira à faire ce qu'il a dit, les choses que nous vous recommandons. Pourquoi la patience du Christ ? C'est que si l'apôtre avait déjà loué les Thessaloniciens pour leur patience, chapitre 1, verset 4, il veut qu'ils apprécient avant tout la patience dont le Seigneur fait preuve lui-même. Sa patience à lui, que nous apprenons à connaître dans l'intimité quotidienne avec lui. Le désir de son cœur, Jésus-Christ, c'est de nous avoir tous auprès de lui. Tous ceux pour lesquels il a donné sa vie. Ça fait 20 siècles qu'il attend ce moment. Sa patience est nécessaire, car sans elle, un grand nombre de ses rachetés ne pourra se tenir à ses côtés dans la vie éternelle. Est-ce que vous connaissez la patience du Christ ? Si on devait attendre pendant 10 ans la réalisation de quelque chose, mais on tiendrait pas. Déjà au bout de 3 ans, même peut-être de 3 mois, on n'en pourrait déjà plus. Alors j'ai une dernière histoire qui peut nous nous aider à réfléchir sur la patience dont nous manquons souvent. Mais je vous avoue que je suis la première à en manquer. Es-tu impatient? Rien d'étonnant, c'est dans ta nature. Tu veux tout tout de suite. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois apprendre de lui la patience. Il sera ainsi glorifié dans ta vie. As-tu remarqué l'attente patiente d'Abraham à l'égard des promesses de Dieu et comment il fut récompensé? Il ne fut pas perdant, bien au contraire. Il y a cette histoire d'une missionnaire qui attendait un soutien financier long à venir. Elle était malade et ne pouvait plus acheter de nourriture. Pendant 30 jours, elle dut se nourrir de bouillie d'avoine avant que son chèque ne lui parvienne. En racontant sa mésaventure à un docteur, elle expliquait les problèmes d'intestin qu'elle avait eus. Celui-ci lui dit alors qu'un tel régime de 30 jours était la meilleure chose qu'elle ait pu faire pour se soigner d'une maladie qu'elle ne soupçonnait même pas. Sans cela, elle serait probablement morte. Dieu sait ce qu'il fait quand il te fait attendre. Sois reconnaissant à chaque instant. Jésus seul réalise ce qu'est une patience parfaite, mais il en mesure les difficultés pour nous. Il peut diriger nos cœurs. Il n'est pas seulement patient pour attendre le moment de nous avoir avec lui, mais il use journellement de patience envers nous afin de nous préparer pour sa demeure glorieuse. Alors en conclusion, que retenir de notre texte du jour? C'est une transition avant un dernier enseignement pratique de Paul aux Thessaloniciens. Et dans ce court passage, l'apôtre appelle ses lecteurs, il leur appelle de prier pour lui et ses collaborateurs, car sans cette intercession, ils n'ont pas la capacité de réaliser un service efficace et de grande ampleur pour la propagation rapide de l'Évangile. Les prières des chrétiens vont aussi permettre que l'opposition soit contrée à tous les niveaux. À l'extérieur, comme ceux qui ont fait que Paul parte de certaines villes, et à l'intérieur, ceux qui comprenaient mal la parole, ceux qui sont les loups dans la bergerie. Afin qu'un plus grand nombre reçoive les paroles de la vie éternelle. Et à notre tour, nous sommes aussi appelés à prier pour ceux qui annoncent la bonne nouvelle en Jésus-Christ, ceux qui sont en vue, comme par exemple nos missionnaires ou les collaborateurs de Portes Ouvertes. Je ne savais même pas qu'on en parlerait aujourd'hui. Le Saint-Esprit dirige tout. Mais aussi ceux qui, plus discrets, évoluent autour de nous. Nous devons continuer à prier pour que l'Église reste saine, afin que les loups ne s'introduisent pas au milieu de nous. Et nous sommes aussi appelés à prier pour contrer les autorités et les puissances qui ont le pouvoir de s'opposer à nous, afin que l'Évangile coure partout dans le monde. Paul appelle aussi les Thessaloniciens à continuer à obéir, à mettre en pratique les enseignements de Dieu que lui et ses compagnons ont apporté de la part du Seigneur. Nous-mêmes, appliquons-nous à rechercher les bons enseignements dans la parole de Dieu. Une interprétation de tel ou tel verset nous paraisse erronée? Cherchons, fouillons, prions, parlons avec nos responsables afin de mieux comprendre. Ne restons pas sur nos positions et ne nous opposons pas à eux sans réfléchir en suivant les idées à la mode. Car notre responsabilité, et là nous y pensons moins souvent, est de prier pour que nous restions des chrétiens qui se comportent bien afin que nul n'ait à rougir de nous. Et enfin, Paul exhorte à se laisser sans cesse conduire auprès du cœur de l'amour de Dieu afin de vivre par lui. Considérez la patience du Seigneur Jésus afin de manifester cette patience dans leur vie, eux qui vivaient dans une fausse compréhension de l'arrivée du royaume de Dieu. Et nous sommes si impatients. Nous voulons tout comprendre tout de suite, tout savoir tout de suite. Et cela nous entraîne parfois vers de mauvais chemins. Alors approchons-nous de Dieu et vivons de la patience de notre Maître. Amen. Je vous invite à prier.